Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Très heureuse de vous retrouver dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good qui fait du bien à votre vie quotidienne. Et aujourd'hui Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission?
Alors comme chaque jour, on va distribuer les bons conseils, les astuces. Et à 11h45, ce sont les bienfaiteurs d'Europe 1 qui seront aux manettes. Gavins, Clémenté Ruiz d'abord du Guide du Routard. Avec lui, direction le pays des lacs et des hautes terres, l'Écosse. Une destination idéale, pourquoi pas, pour les ponts de mai, les ponts du mois de mai qui vont arriver. Et puis après ça, ce sera au tour de notre cuisinière Perla Savant-Schreiber. Sa recette du jour, ce sera un gâteau de légumes de Pâques, un plat de printemps, très simple à confectionner. Ce sera même facile pour vous, Julia, vous verrez. Ce sera dans moins de 45 minutes.
Mais avant tout cela, dans un instant, on va ouvrir ce magazine en se posant cette question: comment réussir son divorce? Et oui, ça fait partie de la vie. Alors qu'il se passe relativement dans le calme ou qu'il soit au contraire très conflictuel, le divorce est un bouleversement tant sur le plan affectif, pratique que social. Donc on va vous donner les clés ce matin pour en traverser les étapes incontournables. Et pour cela, nous serons guidés par les conseils avisés de Marie-Estelle Dupont. Elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute. On va l'accueillir dans quelques instants, juste après le point de vue de Clément Lanoux. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour et merci pour le sujet du jour. Comme vous le savez, j'adore parler d'amour. J'ai un spectacle qui parle de mariage, de tout ce qui va avec. Et là, on va parler de divorce, alors sujet que je découvre. J'ai essayé d'enquêter en tout cas et je vais essayer de vous faire réussir votre divorce. Si j'y arrive pas, l'émission sera là pour ça. Après, la première chose qu'il faut, c'est un motif de rupture. Parce qu'il y a trop de couples qui s'entendent bien, qui aimeraient divorcer, mais qui finalement tout va bien. Et c'est dommage de voir tous ces amis. Ah, je divorce. Ah, toi aussi. Ah, on sort. Non, je suis encore marié. Je peux en faire. Ça se passe hyper bien. Donc j'embrasse et j'ai vraiment une pensée pour tous ces couples qui vont bien et qui ne divorcent pas. Alors, si vous voulez divorcer, on y va. Alors, première chose, le motif le plus courant, c'est la tromperie. Alors, vous n'êtes même pas obligé de passer à l'acte. Si vous avez du désir pour personne d'autre, il suffit juste de l'avouer, même si c'est faux, de dire voilà. J'ai couché avec ta sœur, ça peut créer des problèmes.
La sœur, ça marche bien.
C'est bien. Plus c'est brutal, plus c'est rapide.
Hein. Avec la mère,
ça marche
c'est
aussi.
Voilà.
Vous n'êtes pas obligé de le faire, encore une fois, il faut le raconter tout simplement. Deuxième chose, alors ça, c'est génial, ça marche pour beaucoup de couples, c'est ce qu'on appelle la routine. Alors là, vous laissez aller. Alors, des petits conseils quand même, si ça ne fonctionne pas à long terme, l'ordi dans la chambre, très très bien. Vous troquez votre vie sexuelle par Netflix petit à petit. Voilà, des super séries ensemble, on s'entend bien, on devient meilleur ami. Et petit à petit, un jour, vous pouvez dire on est devenu trop proche, on peut divorcer, ça peut arriver. L'idéal aussi, alors ça je vous le conseille, c'est l'enfant en bas âge. L'enfant en bas âge, génialissime. Si vous avez des jumeaux, c'est extraordinaire. Première grossesse, on est là, on se réveille la nuit, on est fatigué, on n'en peut plus, et ça aide. Et puis sinon, alors le plus, j'ai envie de dire, le moins violent, si vraiment vous êtes comme moi un bisounours, c'est l'envie de projet différent. De dire, ah, j'ai envie d'autre chose, toi aussi, on divorce, ok, très bien. Alors il faut soigner aussi, comme dans un film, il faut la bonne phrase de rupture. Ah. Il faut pas, parce que j'aime pas quand ça se déchire et tout, il faut trouver des phrases où on se sépare, mais bien quand même. Ouais. Donc il y a toujours le fameux, on s'est rencontré trop jeune. Hyper efficace. Si c'est pas le cas, le c'est pas toi, c'est moi. Je pense que je fais la plus grosse erreur de ma vie, mais il faut que je te quitte. Ouais, voilà. Mais c'est horrible, j'ai du mal à le faire. Ça, c'est bien parce que vous partez un petit peu en héros, j'aime bien. Si vraiment vous voulez faire le côté faux cul qui est génial, il y a la personne qui va faire sa vie avec toi maintenant, va avoir tellement de chance. tu mérites tellement mieux que moi, on les connaît. Je ne suis pas prêt à m'engager, j'ai besoin d'un break, pas la voiture, mais ça on connaît. Troisième point, le partage des amis. Alors ça c'est compliqué. Ça quand on divorce, ça il faut l'anticiper. Ou alors pas de panique, ça se fait un peu automatiquement. Normalement, ce qui se passe, c'est que les personnes vont aller vers la personne qui a été quittée. Ouais. Vos amis iront, c'est ce qu'on appelle la sensibilité de « Oh ma pauvre, pauvre, il est parti comme ça, mais quel salaud !»
J'ai toujours su que c'était un salaud.
Exactement, alors ça vous en prendrez. Si vraiment c'est vous qui êtes quitté, que vous êtes trop déprimant, au bout de 3 mois que vous racontez les mêmes histoires, c'est la loi de la nature, c'est qu'ils retourneront vers l'autre, vers le méchant.
Qui est plus
parce
cool.
Que, voilà, on a beau être méchant, on peut être marrant, donc ça c'est pas mal. Ce qui est assez bizarre aussi, c'est qu'au bout de 3 semaines, vous verrez, vous allez vous-même vous faire draguer par des amis, en fait, que vous aviez jamais anticipé, parce que vous êtes célib et que ça arrive, donc voilà. Alors après, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Là, pareil, évitez le cercle proche. Et assurez-vous vraiment que la rupture soit définitive. N'allez pas coucher avec votre belle-sœur. Si
pour
vous remettez un
mari,
mois après, ça va faire des repas de famille un peu bizarres. Le partage du mobilier, alors j'aimerais vous dire, faites des choses égales, mais franchement, ça ne marche jamais. On se sépare toujours sur la colère, on fait n'importe quoi. Ok, tu prends la télé, je prends la télécommande. Ok, tu prends l'ordi, je garde la souris. On veut juste embêter l'autre. Et voilà, c'est quand on est malheureux, on n'est pas cohérent. Les enfants, c'est pareil. Là, je laisserai les professionnels parce que moi, je vois que deux techniques. Soit on fait un week-end sur deux, soit on coupe les enfants en deux. La première est coûteuse, la deuxième n'est pas très légale. Donc voilà, je crois qu'en fait, il n'y a pas de recette magique pour réussir son divorce. Le truc, c'est juste de faire semblant d'être plus heureux que l'autre. Et pour ça, Instagram, c'est génial. Voilà, si vraiment vous voulez sortir gagnant, vous postez des trucs et tout. Mais faites attention aussi parce qu'il y a la justice qui arrive. Et si vous partez en vacances là, ça peut vous coûter cher. Voilà. Sinon, le meilleur moyen, moi, j'ai trouvé, c'est de ne pas se marier. Voilà, c'est un autre moyen qui existe. Je l'ai choisi, pas de problème à ce niveau-là.
Voilà, il n'y aura pas de divorce.
Normalement.
Eh bien, écoutez, Clément, merci beaucoup pour tous ces mauvais conseils. On va essayer de rétablir un peu les choses.
Je vais sortir les rames maintenant,
c'est ça. Bon, donc vous êtes avec nous, effectivement. On va sortir les rames. Bonjour, Marie-Estelle Dupont.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute et vous êtes également l'autrice du livre Réussir sans divorce, qui est donc paru chez Larousse. Alors, on va donner quelques chiffres peut-être pour commencer cette émission sur le divorce. Il y en a de plus en plus, il paraît, des divorces. Alors, à quel point est-ce que c'est vraiment le fameux un couple sur deux, un mariage sur deux finit par un divorce, c'est ça ?
Alors, avant tout, je voudrais juste dire un petit mot à propos du titre qui peut choquer beaucoup de personnes, qui a été un choix avec l'éditeur, puisque évidemment, on se dit qu'un divorce, c'est d'abord un échec. Mais justement, parce que je vois dans mon cabinet que beaucoup de divorces se transforment littéralement en pugilat qui dure des années et dont les gens sortent ruinés moralement, ruinés financièrement et avec des enfants plus ou moins complètement déséquilibrés, j'ai envie de dire que l'on peut se séparer dans le respect l'un de l'autre et se séparer proprement, se séparer bien, que c'est possible.
Nous, on aime beaucoup le titre de votre livre.
C'était très l'objectif de ce titre paradoxal et provocateur, justement. De dire que ce n'est pas une fatalité de se faire la guerre.
Et dites-moi, ça intervient aux alentours, je crois, des 5 ans de mariage, le divorce. Comment vous l'expliquez, ça ?
Oui, alors, donc on a environ 46% des mariages qui se terminent par un divorce. Et on observe une augmentation des divorces en parallèle d'une baisse des mariages, la baisse des mariages étant en partie attribuée au Pax. Mmh. Qui fait que beaucoup d'unions se sont déplacées vers le Pax. En moyenne, les divorces se font... le mariage se termine au bout de 15 ans, mais il y a un pic au bout de 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans, en général, ça correspond à la petite enfance du premier enfant.
Ça veut dire, en gros, on s'est rencontrés...
Ce qui signifierait... Oui. Ouais.
On a fait
3 ans de célibat. pas de célibataire, mais je veux dire, en mode... on est à deux, on fait un enfant au bout de 3 ans, et l'enfant a 2 ans, et on veut divorcer.
En moyenne. C'est-à-dire que, pour beaucoup de couples, le virage, le passé de 2 à 3, est difficile. C'est-à-dire qu'il y a un changement de place quand on devient parent. On était un couple d'amants, et on va devoir devenir, en même temps, une équipe parentale. Et pour beaucoup, ce virage est difficile à négocier, parce que l'arrivée de l'enfant... que ce soit pour la maman ou pour le papa, réactive sa propre enfance. Donc tout ce qu'il n'a pas réglé dans son inconscient avec ses propres figures parentales, il va le projeter sur l'enfant, ou il va le projeter sur sa compagne chez qui il va retrouver les traits de sa mère. Et s'il n'a pas réglé sa relation à sa mère, par exemple, l'homme peut mal le vivre, ou inversement, la femme avec l'homme.
Alors justement, ça peut être une cause de divorce, l'arrivée de l'enfant et la création ou la mauvaise création de l'équipe parentale. Mais quelles sont les grandes causes de divorce, Clément ? Alors évidemment, a évoqué l'infidélité, qui est un grand classique. Il peut y avoir des problèmes financiers dans les couples aussi, ça les fragilise. Mais c'est quoi les grands motifs de divorce aujourd'hui ?
Alors, je distingue les causes effectivement visibles, les motifs, infidélité, la maladie, la perte d'un enfant parfois, la faillite économique. Et puis la trop grande divergence de valeurs quand on fonde, c'est-à-dire qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs ou qui vient pas du tout du même milieu, mais que les difficultés liées à cela se réactivent avec l'arrivée de l'enfant dans ce qu'on va vouloir lui transmettre au niveau éducatif. Ça, c'est les motifs conscients. En réalité, il y a toute une partie du livre au début dans l'introduction où je dis qu'il y a aussi les causes profondes de l'augmentation du divorce qui me semblent tout à fait cohérentes avec l'évolution dans l'Occident moderne de notre rapport au lien affectif, de notre rapport à l'engagement, de notre rapport aussi à la frustration.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on est comme l'époque, on s'est tinderisé. Quoi.
Bah, on achète, on jette, quoi, si ça ne nous plaît pas. Quoi.
C'est-à-dire que je crois que l'Occident moderne a une anthropologie qui est un peu fausse. C'est parce qu'on a essayé de redéfinir l'être humain complètement par rapport à sa performance, aux objectifs, à l'image. Et donc on est dans ce que disait déjà Bernanos après la Deuxième Guerre mondiale. Il disait l'être humain est devenu contribuable et consommateur. Mmh. À partir de là, on dévalorise ce qui a de la valeur, le lien, la relation, la sérénité, l'être, et on survalorise ce qui a un prix, l'avoir, la consommation. Donc quand vous êtes obnubilé par la performance, par l'image, etc., la relation à l'autre qui demande une disponibilité psychique, elle est fragilisée.
Bien sûr. Merci à vous, on reste ensemble dans Bienfait pour vous ce matin. On vous aide si vous avez, je sais pas, un divorce, une séparation en vue. Parfois on y pense mais on n'arrive pas à franchir le pas, notamment à cause des enfants. Eh bien, on va parler de ces cas-là aussi, on va vous donner des conseils. Donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on s'intéresse à ces relations amoureuses qui échouent ce matin. Un mariage sur deux termine par un divorce. Alors ça peut évidemment tous nous concerner. On fait le point avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont. Vous venez d'ailleurs de publier ce livre, Réussir son divorce, et c'est paru chez Larousse. Alors l'un de vos premiers conseils, c'est dès les premières années de la vie à deux, se dire que la séparation est possible. En fait, savoir qu'on n'est pas propriétaire de son couple, vous pensez vraiment que ça peut aider à mieux vivre ou même à éviter le divorce ?
Tout à fait. Je pense qu'être clair avec la vision qu'on a de l'amour et de la relation et avoir dépassé le stade de l'amour captatif, possessif, et toujours se dire qu'une relation et une personne ne sont pas notre propriété et ne sont pas acquises et sont vivants et sont en évolution, ça permet évidemment de rester dynamique et acteur de la relation. Je dis d'ailleurs que parfois un divorce réussi, c'est une envie de se séparer, assumée, qui passe par une discussion et une séparation momentanée, et moi je l'ai vu chez des patients, et qui permet finalement d'éviter le divorce.
Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher à son couple, c'est ça ? Faut vivre comme une future divorcée ou pas ?
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut avoir conscience que la relation est vulnérable, qu'elle est évolutive et qu'il est important d'en prendre soin. Ça permet de ne pas refouler sous forme de non-dit les difficultés, d'en parler, et donc de dépasser ces obstacles.
Alors, autre chose que vous proposez de faire quand le couple commence à battre de l'aile, c'est de faire un test de personnalité. Ça va changer quoi, ça, le fait de savoir, par exemple, que ben, moi, je sais pas, je suis quelqu'un de très introverti et que mon mari est plutôt une personnalité déterminée. Enfin, pourquoi c'est important, ce point-là ?
Alors, c'est important parce qu'on s'aperçoit que très souvent, la relation échoue parce que le choix s'est fait sur un mauvais discernement. Et aujourd'hui, dans notre culture, on apprend plein de choses aux enfants à l'école, mais on ne leur apprend pas du tout la psychologie, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un psychisme et qu'il peut y avoir des personnes introverties, des personnes extraverties, des personnes qui expriment leur affection par les gestes, d'autres par les cadeaux, d'autres par le langage. Et le fait d'avoir des notions de comment je fonctionne, c'est connais-toi toi-même en fait, hein, si je sais d'où je viens, je sais où je vais. Si on sait comment on fonctionne, et que l'autre fonctionne avec un autre type de personnalité, une autre gestion du stress, on ne prend plus personnellement des réactions inattendues de sa part.
Moi, surtout, je le ferais bien avant le mariage, en fait, ce test.
Il faut
test,
le faire avant le mariage. Et moi, je dis toujours, le plus beau cadeau de mariage, c'est d'avoir fait 6 mois de thérapie, de bien se connaître et de bien connaître son couple parental et ses modèles. Parce que si vous savez que face au stress, l'autre a tendance à se replier sur lui-même, vous ne vous sentirez pas abandonné quand il dit « Chérie, j'ai besoin de prendre une journée tout seul et d'aller me balader ».
Vous parliez de thérapie.
Vous arrêtez de projeter.
Là, vous parliez de thérapie avant justement le, pourquoi pas la mise en couple, en tout cas avant le mariage. Mais quand ça va mal dans le couple, on est parfois tenté d'aller voir un psychothérapeute, un thérapeute de couple. Qu'est-ce que vous faites pour ces couples-là ? Parce que vous n'êtes ni magicien ni.
Alors, on n'est pas magicien,
ni
on n'est pas
arbitre,
on n'est pas juge. Qu'est-ce qu'on fait ? On
Est-ce que vous les repérez, les couples où il y a vraiment rien à sauver ? Où il y a toujours un truc à sauver.
Mais l'éthique exige de ne pas de prendre son temps avec ses intuitions cliniques, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, on n'est pas omniscient, et on peut confondre un moment de conflictualité aiguë et penser qu'il y a de la haine dans le couple. C'est pas forcément le cas, donc il faut prendre son temps. Et ensuite, dans la thérapie de couple, on est là pour introduire un tiers qui va permettre à chacun d'exprimer les choses qu'il n'arrive pas à dire en face à face. Peut-être l'un parce qu'il a peur des réactions démesurées de son partenaire ou de sa partenaire, peut-être l'autre parce qu'il a une culpabilité à ressentir ce qu'il ressent. Et donc, nous, on est là pour aider les deux personnes à remettre de l'espace et à exprimer les choses.
Et ça marche ?
Ah, mais bien sûr que ça marche. Alors, on a aussi bien un rôle à jouer avec des couples qui viennent pour réapprendre à communiquer et redécouvrir avec beaucoup de joie et d'émerveillement les ressources cachées de leur couple. Et ça, c'est évidemment une gratification énorme pour le thérapeute de voir des personnes réapprendre à communiquer et retrouver du plaisir à être ensemble et redécouvrir la tendresse. Mais aussi des personnes qui viennent en me disant « j'ai envie de quitter ma femme, mais je sais pas », et qui est dans la culpabilité. Et voir qu'au fil de la thérapie, en fait, cette personne va retomber amoureuse de sa femme. Ça arrive. J'ai eu des exemples de ça.
Bon, c'est pas l'exemple qu'on prend aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va dire que notre couple imaginaire, il divorce et il va essayer de bien divorcer. Justement, on a l'impression que le divorce, c'est un mot comme ça, couperé, comme si on divorçait du jour au lendemain. En fait, une séparation, un divorce, pour qu'il soit réussi, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Alors, on n'a pas le temps de toutes les détailler, mais grosso modo, quelles sont les étapes du divorce ?
Il y a d'abord le moment où on se pose la question, on réalise que oui, l'histoire est terminée, elle ne peut pas être sauvée, elle ne peut pas se poursuivre autrement que sous forme de mensonges au nom du conformisme, mais qui va être très délétère, peut-être y compris pour les enfants. Donc il y a ce moment de la prise de conscience, il y a le moment de l'annonce, qui est évidemment aussi difficile pour celui qui annonce que pour celui qui entend. mais ils ne sont pas dans la même temporalité. C'est-à-dire que celui qui le découvre tombe de sa chaise parce qu'il a refoulé tous les indices qui lui disaient que ça n'allait pas, parfois. Et puis, celui qui le dit, évidemment, a le mauvais rôle et peut le dire de manière très blessante parce qu'il perd la maîtrise et qu'il a tellement peur de le dire qu'il le dit d'une manière très froide et très cassante. Donc, je donne des conseils dans le livre. Ensuite, il y a la troisième étape qui est celle de la mise en place de la séparation. Comment on sépare deux corps ? Comment on sépare deux vies ? Comment on sépare deux inconscients ?
En pratique aussi, oui.
En pratique, et accepter que séparer deux inconscients, ça prend du temps. Ça prend du temps psychiquement de se déshabiller de l'autre, c'est ce que je dis dans le livre en quelque sorte. Et puis, il y a le temps de la reconstruction, se retrouver avec soi. Et de la guérison, de la convalescence, parce que c'est une blessure du cœur, bien évidemment. On s'est déçu, on a été déçu, et la possibilité un jour de retomber amoureux.
Il y a aussi, vous le dites, hein, cette phase de colère. Vous parliez tout à l'heure un peu de temporalité, on n'a pas la même temporalité. Cette colère, elle peut être à un moment donné bénéfique, elle est normale déjà ou pas quand on se fait plaquer, qu'on
a envie de tout casser.
Bien sûr, mais en fait, la colère, comme la culpabilité, comme toutes les émotions, sont des outils qui sont mis à disposition par l'évolution pour que l'être humain prenne les bonnes décisions. Donc elle n'est pas en soi mauvaise, la colère. Elle est comme la culpabilité. Si elle est exagérée, elle est destructrice. Mais c'est aussi votre colère, par exemple, pour un homme ou une femme trahie et trompée, qui va lui permettre de rester debout et d'avoir la combativité nécessaire à gérer la situation, à s'adapter avec les enfants, à prendre des décisions pour se protéger. Donc la colère n'est pas en soi mauvaise. Elle est aussi une défense à un moment donné contre la dépression.
Mais on fait comment quand on a un partenaire qui ne veut pas divorcer, qui ne veut pas de la séparation, qui se met en colère et qui dit qu'il en est hors de question ?
Parce qu'il faut être deux pour divorcer. Ouais.
Tout à fait. Il faut être deux pour divorcer. Et dans ces moments-là, je dis qu'il faut dissocier le temps psychique et le temps juridique. Ça ne sert à rien de se lancer dans une procédure juridique trop vite, puisque si l'autre ne veut pas divorcer, qu'il est dans le déni de la fin du couple, de toute façon, quelles que soient les propositions que vous fassiez, il va les refuser puisque son but n'est de ne pas trouver un accord et il va trouver un moyen dans la guerre de rester en lien avec vous. Donc dans ces cas-là, il faut supporter que l'autre existe et qu'il a besoin d'un temps plus long que vous pour accepter l'idée de cette séparation.
Vous pensez quoi de l'idée du break avant la vraie séparation ?
Mais moi, j'ai constaté que non, c'est une idée reçue de dire que le break conduit forcément à la séparation. Moi, j'ai vu des couples être sauvés justement parce qu'ils assumaient que c'était une cocotte minute qui allait exploser, qu'ils étaient en train d'abîmer leurs enfants, qu'il valait mieux avoir momentanément, dans un cadre qui était défini ensemble, chacun son appartement, et les deux partenaires décidaient ensemble s'ils avaient comment les enfants étaient gardés, s'ils avaient le droit pendant cette période d'aller voir ailleurs, comment on s'organisait pour les finances, en se disant par exemple, on se donne 3 mois pendant lesquels de toute façon on ne se remet pas ensemble. Certains d'ailleurs décidant par contre de se donner rendez-vous chez un thérapeute de couple pour voir ce qu'il en était, ce qui pouvait être sauvé ou pas. Et chez certains, à la fin, ça a permis des belles retrouvailles et de se rechoisir.
Ah bah c'est génial.
Et dans ces cas-là, ça vaut la peine quand même.
Bah évidemment.
Parce que je crois que, bien sûr que le divorce est un traumatisme, mais quand on est un enfant, voir ses parents se détester cordialement et rester ensemble parce qu'on est une famille bien sous tout rapport, ce sont des traces indélébiles. C'est-à-dire que ces enfants ou n'oseront pas s'engager, parce que pour eux, le couple, c'est un cercueil du bonheur, ou détesteront l'autre sexe en s'identifiant aux parents du même sexe qu'ils ont vu souffrir. Donc peut-être qu'il vaut mieux dire aux enfants, les adultes ne sont pas à l'abri des problèmes, on fait une pause, on va se parler, et puis parfois après, il y a une issue heureuse dans les retrouvailles.
Eh ben c'est très clair, merci beaucoup Marie-Estelle. On reste encore ensemble un peu. On va continuer à voir comment réussir son divorce et notamment vis-à-vis aussi de l'entourage, de la famille, des amis. Et puis bien sûr, on va vous conseiller pour bien faire les choses quand on divorce et qu'il y a des enfants au milieu. On y revient très vite, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali. Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On apprend comment réussir son divorce aujourd'hui. Celle qui nous conseille toujours sur ce sujet, c'est vous, Marie-Estelle Dupont. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Alors Marie-Estelle, vous évoquez dans votre livre la réaction de la part de la famille face à notre divorce. Et on a parfois, c'est vrai, des attitudes qu'on n'avait pas du tout prévues. Vous prenez le cas de Raphaël. Racontez-nous.
Alors en fait, c'est l'histoire d'un patient qui a été très surpris. En fait, le divorce a été l'occasion pour lui de complètement désidéaliser sa figure parentale parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que sa mère soit dans un déni, probablement totalement stupéfaite parce qu'il n'y avait jamais eu de divorce dans la famille. C'est rentré tellement en collision avec ses schémas à elle qu'en fait, elle n'a pas pris acte de la réalité de ce divorce. Elle a continué à agir comme s'il n'y avait pas de séparation, ce qui était très violent en fait pour le patient. C'est-à-dire
qu'elle considérait que sa belle-fille était toujours...
Son ex-belle-fille était toujours sa belle-fille, etc., etc. Donc toute la détresse et la difficulté réelle que traversait mon patient, Finalement, lui qui avait toujours pensé sa mère très secourable, il s'est trouvé face à un déni. Et puis quand le déni a commencé à craquer, face à du jugement.
Et donc, il faut réagir comment dans
certains
cas,
notre famille peut être secourable. Dans d'autres, elle ne peut pas l'être parce qu'elle a ses modèles et ses a priori qui font que de toute façon, elle va vous juger. Je crois que c'est très important à ce moment-là de leur dire, écoutez, j'ai beaucoup d'attachement affectif envers vous, mais je traverse une période difficile dans laquelle j'ai besoin soit qu'on me laisse en paix, soit qu'on me soutienne. Et c'est vraiment pas le moment pour moi d'entendre vos projections. Parce qu'il faut vraiment se dire que on est personne pour juger quelqu'un qui se sépare, on pourrait tout autant juger des couples qui se mentent en permanence et qui peut-être feraient bien de se séparer pour le bonheur de leurs enfants. Et que dans ces cas-là, la famille se doit d'être bienveillante et de ne pas imaginer savoir à la place de l'enfant qui divorce ce qui est bon pour lui, et simplement d'être secourable en tant que grand-parent. Je crois que c'est important.
Justement, les enfants, on en parlait tout à l'heure, on a dit que pour eux, justement, parfois, le divorce, c'est pas nécessairement un traumatisme, le divorce des parents, parce qu'avoir des parents qui s'écharpent toute la journée, c'est aussi traumatisant. Comment on annonce bien ? Est-ce qu'il y a une belle façon, une bonne façon d'annoncer à son enfant qu'on va se séparer ? Est-ce qu'il faut nécessairement le faire à deux, le père et la mère présents ? Quels sont vos grands conseils sur ce point-là ?
C'est de se souvenir qu'un enfant, il a d'abord besoin de repères et de cohérence. Donc, évidemment qu'un divorce est un trauma au sens où il fait éclater les repères. Mais comme vous disiez très bien, c'est tout autant un trauma d'avoir des parents qui se tape dessus toute la journée. Donc, il est très important, quand on dit à l'enfant que la séparation va arriver, d'abord, il faut être sûr de cette décision. Il ne faut pas lui faire vivre des retours en arrière, etc. Être sûr et lui dire la vérité. On se sépare momentanément pour 3 mois ou on se sépare définitivement. Et de gommer, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un doute dans son esprit sur le fait qu'il n'est absolument pas responsable de cette séparation.
Donc, il faut lui dire que tu n'y es pour rien.
Séparer le couple d'amants, le couple de parents, lui, il ne bouge pas, nous sommes toujours tes parents, on ne divorce pas de son enfant, on peut changer d'amoureux, on ne change pas d'enfant. Donc déjà, tu auras toujours tes deux parents et tes deux parents t'aimeront toujours et ta place d'enfant reste ta place d'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se sépare que tu deviens le réparateur, le séparateur, le thérapeute, l'espion, le médiateur.
On dit tous ces mots à un enfant, tout ce que vous êtes en train de dire là ?
Non, on se les dit pour bien dire à l'enfant. Pour gommer dans l'enfant tout doute, parce que quand l'enfant vit un éclatement de ses repères, il crée des hypothèses pour s'attribuer la cause de ce qui se passe, pour se consoler, se dire c'est de ma faute, j'ai pas été sage.
Il faut lui dire donc, c'est
maman,
pas ta faute. Faut
maman est déprimée
dire.
Parce que j'ai des mauvaises notes, les parents séparent parce que j'ai pas été sage.
Donc il faut lui dire
donc,
ça, c'est
dire,
pas
ça
ta
n'est
faute.
Pas ta responsabilité.
D'accord.
Tu es la conséquence de notre amour, tu n'es pas la cause de notre amour et tu n'es pas la cause de notre désamour. D'accord ? L'enfant, il ne fait pas les parents, il ne défait pas les parents. Donc ça, c'est extrêmement important. Et très vite, parce qu'en fait, un enfant se pose la question de « est-ce que mes parents m'aiment ?» et « comment va être ma vie ?» Donc vous le rassurez sur l'amour inconditionnel, sur le fait que l'autre parent qui quitte la maison est toujours son parent, qu'il y aura accès autant qu'il le souhaitera. Quelle que soit la décision du juge, je crois que c'est important de dire à l'enfant, si tu as envie de voir papa, on appellera papa, on mettra les choses en place. Et puis, de vraiment rassurer l'enfant sur comment va se passer sa vie. Tu ne changes pas d'école, le déménagement aura lieu à tel moment, on va aller voir la nouvelle maison avant. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin de choses concrètes pour se projeter, se représenter la réalité de sa vie au quotidien.
Alors, on a une question un peu de Clara qui est apparue sur Instagram. Elle vous demande, quelle est la meilleure garde alternée pour les enfants ? Est-ce qu'il y a une formule idéale pour préserver leur bien-être ?
Alors, moi, mais c'est mon opinion, elle ne représente pas toute ma profession. J'ai tendance à trouver que la garde alternée, elle est très difficile à vivre pour les enfants. Parce qu'avoir deux domiciles, c'est très compliqué. Donc, moi, je recommande plutôt qu'il y ait un des parents qui ait la garde officiellement. Simplement, la garde officielle, ça veut dire qu'il voit l'autre parent qu'un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et on peut tout à fait assouplir ça à l'amiable et dire, écoute, les week-ends où tu l'as, c'est pas samedi, dimanche, c'est du vendredi sortie d'école au lundi matin école, comme ça on ne se croise pas et en plus tu as une soirée supplémentaire. Et si tu veux le prendre plus pendant tes vacances, évidemment tu peux, et mettre de la souplesse pour qu'il ait plus de temps en quantité avec l'autre parent, mais en évitant la garde alternée semaine A, semaine B, qui est quand même très difficile.
Surtout
en termes d'ancrage pour l'enfant, et particulièrement pour les tout-petits, où là je crois quand on se sépare avec un enfant qui a en âge 0-3 ans, il faut vraiment faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant et les besoins liés au développement d'un bébé qui n'a pas encore ce qu'on appelle la permanence de l'objet, en fait, qui ne sait pas que le parent continue d'exister quand il n'est pas là. C'est important de créer vraiment des temps fréquents, pas très longs, mais fréquents, avec l'autre parent. Bah tiens, t'es en télétravail le mardi, bah écoute, va la chercher à la crèche, balade-toi au parc, tu me la redéposes, et mettre dans sa poche son ego, parce que vraiment les besoins du bébé sont spécifiques, et que pour que le lien d'attachement se crée avec les deux figures parentales, c'est très important de créer des liens fréquents, répétés, réguliers avec les deux parents.
Et je voudrais vraiment rassurer tous les parents qui nous écoutent, une fois que le gamin a plus de 15 ans, et ben vous le voyez plus du tout, donc il n'y a plus de problème de garde alternée.
Et surtout, parlez à votre bébé, c'est pas parce que le bébé ne peut pas parler qu'il ne comprend pas c'est quand vous mettez des mots sur la réalité, il a le droit d'avoir une parole sur ce qui lui arrive, c'est un être humain.
Et donc on l'annonce même à un bébé.
Donc
en fait.
Bébé est une personne, le bébé n'est pas personne.
Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour en savoir plus sur ce sujet. Je rappelle qu'il y a aussi votre livre sur le sujet, Réussir son divorce chez Larousse. Merci encore, on change de sujet maintenant. Et oui, puisqu'à suivre, ce sont les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 qui vont nous rejoindre. Gavins Clémenté-Ruiz du Guide du Routard va nous suggérer de partir en vadrouille en Écosse. Il a repéré de beaux spots là-bas à explorer. Et puis après ça, on va vous mettre en appétit grâce à la recette du jour de Perla Servan-Schreiber. C'est un gâteau de légumes de Pâques, donc je vous le conseille. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour très vite dans Bienfait pour vous sur Europe 1 avec les conseils touristiques et gourmands de nos bienfaiteurs. Mais pour le moment, place à la musique avec un classique qui fait toujours du bien. C'est Louise Attaque, Je t'emmène au vent sur Europe 1.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te
d'entendre le groupe Louise Attaque avec leur tube Je t'emmène au vent. Alors juste avant de retrouver nos bienfaiteurs, je vous rappelle qu'Europe 1 est partenaire du festival Cannes Série et que vous pouvez voter sur europe1.fr pour le prix Europe 1 du public. Alors c'est la dernière ligne droite aujourd'hui pour voter d'ailleurs, alors foncez et élisez votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Allez, tout de suite, place aux bienfaiteurs d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Ravie, très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et on va tout de suite accueillir les bienfaiteurs d'Europe 1. Je commence par notre chère Perla Savant-Schreiber. Bonjour Perla.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver.
Alors qu'est-ce qu'on va préparer de bon tout à l'heure là ?
Alors, vous avez dit gâteau, parce que vous avez raison, j'ai dit gâteau, sinon je vous aurais effrayé. Ah. En fait, c'est un soufflet de légumes.
Oui, ça c'est compliqué, soufflet. Vous nous arnaquez.
C'est le seul soufflet au monde inratable.
Ah, j'espère, parce que moi, je ne sais pas, je ne me suis jamais tentée au soufflet. Et pourtant, vous savez que je cuisine mieux que Julia.
Inratable. Inratable, rien du tout.
Okay. Très bien. Voilà. Merci Perla, on vous retrouve tout à l'heure, mais pour le moment, je me tourne vers Gavins. Bonjour Gavins, que j'interviewe.
Bonjour à tous, comment ça va ?
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment envie de partir au Grand Air, vraiment. Ah, oui. Et en ce moment, une des destinations qui nous fait rêver, c'est l'Écosse. Et oui, Gavins, vous allez nous faire, vous allez préparer un petit séjour. Et on part où exactement en Écosse ?
Eh bien, avant toute chose, il faut dire à nos auditeurs qu'une certaine auditrice, Mélanie G de Paris m'a dit je pars en Écosse quelques jours en famille, où dois-je aller ? Ni une ni deux, je m'exécute, regardez j'ai même mis mon kilt, ça y est c'est prêt. Alors Mélanie G, chers auditeurs également, n'oubliez pas votre passeport et direction pour commencer, Édimbourg bien entendu, impossible de faire l'impasse sur la capitale de l'Écosse. Vous irez vous faufiler dans ses passages secrets, dans ses ruelles pittoresques, c'est vraiment une ville très, très agréable, imprégnée d'histoire, avec un patrimoine architectural exceptionnel, d'ailleurs classé à l'UNESCO. Alors moi, je vous conseille de faire une visite guidée. Comment ? Alors, deux jours ou alors deux nuits. Ça, c'est assez amusant. Sur les traces d'écrivains célèbres.
Le parapluie est fourni ?
Oui. Oui.
Pourquoi il pleut en Écosse ?
Non, à peine. Parfois. Il y a une visite guidée avec la recherche des fantômes. J'aime bien ça.
Les enfants vont adorer ça.
C'est à Édimbourg.
Alors, c'est sympa ça, pour le coup, franchement. Et les enfants, je pense qu'ils aiment bien. C'est un peu chasse-trésor.
Ils aiment bien se faire peur.
Et il paraît que l'Écosse est aussi très riche côté art. C'est vrai ?
Oui, ça c'est vrai. À Édimbourg, comme à Glasgow aussi, une autre ville importante d'Écosse, vous allez faire une overdose de musées si vous aimez ça. Quasiment tous gratuits. C'est bon à savoir. C'est la seule chose à peu près abordable aussi.
Oui, on prévoit.
Parce que tout coûte cher, de l'hébergement au repas. Prévoyez quand même. Faites attention. À Édimbourg, ne manquez pas les chefs-d'œuvre la Scottish National Gallery, célèbre pour cette collection de peintures européennes assez riche, ou encore la Scottish National Gallery of Modern Art. Il y en a pour tous les goûts. Et à Glasgow, vous verrez aussi des musées assez fameux, notamment le Kelvin Grove Art Gallery and Museum.
Mais l'Écosse, c'est aussi la nature, non ? C'est ça qu'on a envie de voir.
Mais tellement, moi, je veux voir la nature.
Carrément. Et là aussi, vous aurez l'embarras du choix. Peut-être succomberez-vous devant les paysages époustouflants. Alors, de Glencoe, un premier stop si vous avez envie. C'est le berceau de l'alpinisme écossais, ou mieux peut-être, vous irez peut-être arpenter ces sentiers de randonnée. C'est assez ardu, quand même. Je vous conseille aussi les randos du côté du massif montagneux de Cullins Hills. C'est sur l'île de Skye.
J'avais repéré ça.
Mélanie G de Paris l'avait repéré. Un lieu exceptionnel. Ah, ça y est, elle s'est dévoilée. Un lieu exceptionnel où vous pourrez côtoyer la mer, la montagne, avec des cimes dentelées, de la lande aussi, vous savez, avec tous les moutons. Là,
vous y êtes déjà allé, Perla, en Écosse ?
Non, c'est pas ma priorité. Voyez-vous, moi, je suis plutôt côté dune, au désert.
D'accord, très bien, c'est dit.
Et
bon, alors ça y est, on y est, l'Écosse, mais c'est aussi un pays plein de légendes.
Carrément, qui n'a pas eu envie, en allant en Écosse, d'aller scruter le Loch Ness, ou peut-être Nessie, pourrait montrer le bout de son nez.
C'est le surnom du monstre, c'est ça.
Exactement, c'est le monstre qui habiterait dans ce fameux Loch Ness, ce lac Ness, Loch en écossais. Et 35 mètres de long, des eaux noires profondes, 200 mètres par endroit, et le fameux Nessie qui serait caché là depuis 1930, on l'aurait peut-être un jour aperçu, on ne sait jamais. Peut-être que Mélanie G de Paris le découvrira. Il y a aussi un autre endroit que je vous propose, c'est les châteaux écossais. Alors là, je ne vous en propose pas un, mais plusieurs. Il y a Scone, Glamis, Ballindalore, Dunottar, Stirling, Dunrobin, autant de châteaux que vous irez peut-être visiter parce qu'ils sont tous à peu près en ruine ou alors au bord d'un loch, un fameux lac, ou alors restauré. Il y en a pas mal qui sont reconvertis en hôtel.
Ah,
et ça, c'est assez sympa parce que dormir dans un hôtel en se faisant encore un peu peur avec les fantômes, c'est une bonne idée.
C'est chauffé ?
Oui, bien sûr, Perla. N'ayez crainte.
J'adore, on va se faire peur. Tout ça est très humide, mais très, très tentant.
Mais
moi,
oui,
je trouve.
Ça fait du bien, un peu de fraîcheur.
C'est vert, l'Écosse.
C'est très, très vert.
Et vous avez un dernier coup de cœur ou pas ?
Ouais. Alors, 10 000 km de littoraux, n'oublions pas, pour l'Écosse. Donc, il y a plein de petits ports de pêche pittoresques. Je vous propose d'aller à Anstruther. C'est pas facile à dire. C'est sur la péninsule de Fife. Vous allez aller déguster peut-être l'un des meilleurs fish and chips.
J'adore fish and chips.
Vous pouvez en avoir au haddock, à la sole, au crabe, à la crevette, au saumon, c'est copieux, super frais. Je pense que Mélanie G. de Paris et tous les auditeurs d'Europe vont apprécier leur séjour en Écosse.
Ah, merci Gavin pour tous ces bons tuyaux. Je rappelle que vous êtes tous les dimanches à 11h aux côtés de William Lémergie dans Balade en France. Mmh. Allez, maintenant qu'on a eu un aperçu des plaisirs gustatifs écossais, ah bah j'ai faim. Alors Perla, c'est à vous de jouer. Hein.
Ah oui, alors ça va être bientôt Pâques, donc on a commencé à voir les légumes de printemps. Et donc, vous allez vous mettre à ce petit soufflet de pommes de terre et de légumes de printemps, un ratable, vous verrez pourquoi.
Alors, il y a quoi dedans ?
Alors, des pommes de terre, là, jusque-là, tout le monde adore. Les petits, les grands, tout va bien. Les grosses pommes de terre pour purée, hein, la binge. Une ou deux carottes, une petite poignée de petits pois, surgelés ou frais, à vous de choisir. Et surtout, des gros bouquets d'herbes. Alors là, prenez l'herbe de votre choix, mélangez les herbes, mais il faut au moins que vous ayez le volume d'un bouquet entier, bien gros.
Donc du persil, par exemple, de la coriandre.
Absolument, tout ça, j'ai le droit. De l'estragon, ce que vous voulez.
Okay.
Et vous pouvez les mélanger. Et on a 8 œufs, donc ça, c'est une recette pour 6 personnes. 2 cuillères à soupe de crème fraîche qui sont facultative, mais que
mais
je vous recommande.
Mais pourquoi s'en priver? Mais franchement,
que
au régime,
je
on les
vous recommande, voilà, parce que c'est beaucoup plus fluffy, comme disent les Américains. Une cuillerée à café rase de curcuma, parce que c'est là que vous allez mettre une petite touche d'épices et du sel, et bien poivré.
D'accord, ok. Alors, comment on s'y prend?
Alors, ben, vous commencez par faire vos petits pois, soit vous les écossez, soit vous les dégelez. Vous faites bouillir vos pommes de terre avec la carotte. Alors, la pomme de terre avec peau, la carotte sans peau. Vous chauffez votre four à 200 degrés, puis ensuite vous pelez les pommes de terre sans vous brûler, si c'est possible, les doigts, et vous les passez à la moulinette, ou alors vous pouvez aussi les écraser grossièrement, c'est très bon aussi à la fourchette.
Il y a encore des gens qui ont des moulinettes ?
Il y a encore
vous
des gens.
Vous avez la moulinette, vous ?
Oui.
Ouais. Ma mère
non
en
seulement
a vu
je l'ai, mais je m'en sers. Et puis vos carottes qui sont déjà donc pelées, hop, en petits dés, tout petits, et vous ciselez vos bouquets d'herbes. Et vous avez plein de machins, vous battez vos œufs en omelette. On met la crème fraîche, enfin en tout cas moi je la mets, d'accord. Le mélange de légumes, juste vous mélangez comme ça avec une spatule. Vous beurrez un moule à cake, on peut le vouloir en tranches ou au contraire en rond, ça c'est vous qui choisissez. Et vous enfournez, vous mettez ça, vous huilez ou vous beurrez bien votre moule. Et puis hop, au four, 35 à 40 minutes. Alors ça sent bon.
Mais à quel degré ?
Que ça sent bon, 190.
D'accord.
Madame Vignali,
okay,
pour
ça
vous
sera
servir.
Fait. Et ça sent donc, bon ouais, vraiment.
Ça sent bon, c'est doré, ça se mange chaud ou à la température de la pièce. Moi, j'aime bien manger chaud. Et là, les petits et les grands, croyez-moi, les yeux fermés, c'est inratable.
Est-ce qu'il y a un hack cette semaine ?
L'astuce de Perla.
Est-ce que vous cuisez vos pommes de terre, si toutefois vous n'en avez jamais cuit, ma chère Julia ? Je ne voudrais pas empiéter sur vos...
Hein, jamais, okay. Elles arrivent comme ça. Donc, le pire, c'est qu'elle est honnête. Hein,
oui, parce
qu'elle
n'a jamais cuit pommes de terre. C'est pour ça que je m'autorise. C'est pour ça que je m'autorise à la mettre en boîte. Donc, surtout, mettre en boîte une star désormais, croyez-moi. Ah ben oui, ah ben oui. Bon, alors, vous les cuisez comment ?
Bah, si je devais le faire, si je devais le faire,
ou à l'eau chaude.
Si j'étais toute seule chez moi, en panique, je mettrais de l'eau froide.
C'est eau froide, non ?
Elle est douée. Hein.
Ah, ah bon,
elle
ne
le fait pas exprès,
non,
mais elle est douée.
Exprès, c'est ça.
Elle a l'instinct culinaire.
C'est toujours à l'eau froide.
C'est pas vrai.
Qu'on démarre la cuisson.
Hein. Ça fait qu'on démarre la cuisson.
Ah oui, parce qu'on ne reste pas que à l'eau froide. Bah oui, vous les laissez une heure et demie dans l'eau froide, Julien, et après, tentez de les manger.
Non, ça, je n'avais jamais encore entendu.
Mais pourquoi à l'eau froide, par là, le début ?
Pourquoi à l'eau froide ? Parce que si vous les mettez dans l'eau bouillante, l'extérieur va cuire plus vite que l'intérieur. Et à ce moment-là, l'extérieur fait une espèce de barrière et la chaleur met beaucoup plus de temps à rentrer à l'intérieur.
Mais c'est la
donc
base.
Ça va plus vite et c'est...
Et vous savez, c'est marrant parce que je l'ai toujours fait. J'ai entendu dire qu'il fallait faire comme ça, mais je ne savais pas pourquoi.
Voilà
il fallait
pourquoi.
Commencer à l'eau froide.
Voilà,
génial.
Voilà
et la semaine
pourquoi.
Prochaine, qu'est-ce qu'on mange ?
Alors la semaine prochaine, on est presque à Pâques.
Hein. Oui.
On va être tout proche, tout proche. Alors, du chocolat. Et puis, il y a aussi les œufs de Pâques. Donc, je vais vous faire faire un chocolat minute dans des petits coquetiers qui, normalement, servent à poser vos œufs.
Et on va les manger minute ?
Une minute ! Il faut juste une minute pour les faire, mais il faut les laisser plusieurs heures à glacer.
Ah d'accord, bon, c'est entendu.
C'est tout.
Merci beaucoup Perla. Et bien sûr, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et bien voilà, ce magazine est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr lundi dès 11h pour parler de quoi, Julia ?
Eh bien, on va vous proposer un focus sur la silver economy. Vous savez ce que c'est ?
Ben oui.
C'est toute l'économie qui gravite. Oui, c'est vous, Perla.
Perla. C'est moi, c'est moi.
C'est 80
ans. Oui, mais c'est ça. C'est toute l'économie qui gravite autour des seniors, car on le sait, la vie ne s'arrête pas à 60 ans, heureusement, bien au contraire. Et c'est ce qu'on verra dans le détail lundi dans Bienfait pour vous.